E-Radio présente Grand Continent. Grand Continent, une émission pour enrichir les questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. Grand Continent, Ulrich Heugeveld.
Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Grand Continent sur E-Radio dans laquelle nous faisons l'écho d'un article relayé sur le site du Grand Continent, un média du groupe d'études géopolitiques de l'École Normale Supérieure, un site en ligne accessible à l'adresse legrandcontinent.eu. Alors nous avons en ligne monsieur Sébastien Lumet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le responsable du bureau bruxellois du Grand Continent. Nous allons évoquer avec vous, revenir sur un article publié récemment sur votre site et qui demande à une vingtaine d'universitaires d'analyser le concept d'autonomie stratégique européenne. Alors c'est un concept dont on entend régulièrement parler, mais peut-être commençons avec vous, monsieur Lumet. Est-ce que vous voulez bien, pour nos auditeurs, rappeler un petit peu ce que c'est ce concept qui n'est pas forcément clair pour tout le monde? Il s'agit d'évoquer la façon dont l'Union européenne pèse dans la compétition géopolitique mondiale, hein, c'est bien ça, hein.
C'est un peu ça. Alors ce concept est effectivement assez nébuleux, assez complexe. C'est justement tout l'intérêt d'avoir rédigé une note dessus. Bon, c'est un concept qui est assez vieux, c'est un concept qui revient régulièrement. On parle parfois de souveraineté européenne, de souveraineté stratégique, d'union géopolitique. Tous ces concepts finalement correspondent à l'idée, une idée de l'autonomie stratégique européenne. Finalement, nous, nos travaux, là en l'occurrence avec ce papier, se sont insérés dans le cadre tout d'abord de entretien que nous avions mené avec Emmanuel Macron et dans lequel il proposait une première réflexion assez élaborée sur l'autonomie stratégique et amorçait un dialogue transnational assez inattendu, car dans le cadre de cet entretien, il avait répondu finalement à la ministre allemande de la Défense en exprimant son désaccord profond avec la position qu'elle avait exprimée. Il faisait référence à une tribune parue quelques jours plus tôt, qui était en fait un condensé d'un discours qu'elle avait prononcé et dans lequel elle affirmait que les illusions de l'autonomie stratégique européenne devaient prendre fin. Donc c'était une tribune assez incisive. Et on a par la suite constaté que non seulement les prises de position politique ne se sont pas limitées à cet échange indirect franco-allemand, mais qu'elles ont eu le mérite de relancer même le débat sur l'autonomie stratégique, notamment parmi les spécialistes et commentateurs des affaires européennes. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons nous-mêmes rédigé un long article et que nous avons produit cette note.
Alors justement, vous avez interrogé une vingtaine d'universitaires, observateurs ou d'experts de plusieurs sensibilités, nationalités et horizons pour se positionner sur cette question de l'autonomie stratégique. Vous leur avez aussi demandé de donner une note de 0 à 5 pour savoir comment l'Europe avait pu se positionner par rapport à ce concept au cours de cette année assez particulière de 2020. Avant de revenir un peu sur les idées de chacun et chacune, est-ce qu'il y a un consensus sur les dimensions indispensables qu'il faut pour aller vers l'autonomie stratégique européenne au sein du panel que vous avez pu interroger?
Non, justement, il n'y a pas de consensus. Alors, on se rend compte qu'une majorité de contributeurs se sont positionnés sur la note de 3, qui correspond au fait de dire que l'Union européenne est devenue légèrement plus autonome pendant l'année 2020. Mais il n'y a pas de consensus qui se dégage, c'est justement ce qui est intéressant avec cet exercice. L'idée était en fait de proposer, comme vous le dites, à une vingtaine d'observateurs renommés, issus de spécialités très différentes les unes des autres, de se positionner sur une échelle de 0 à 5, 0 étant l'Union est devenue beaucoup moins autonome stratégiquement en 2020 et 5 étant l'Union est devenue largement plus autonome en 2020. Donc 23 auteurs se sont prêtés au jeu en étayant leurs notes chacun avec un court propos justifiant leur choix. Parmi ces auteurs, nous avons d'abord, et c'est intéressant de le constater, une certaine diversité de pays avec des contributeurs et des contributrices originaires des Pays-Bas, de Grèce, de Bulgarie, d'Irlande, du Portugal, mais aussi, et c'est important de le dire, des États-Unis. Et c'était important pour nous d'avoir aussi cette perspective-là. Au-delà de cet aspect, nous avons surtout une diversité des profils avec des juristes, des économistes, des politologues, des philosophes politiques, des diplomates, des anciens diplomates. Et c'est, je pense, la grande valeur ajoutée de ce document qui permet en fait de faire vivre ce dialogue dans une perspective transnationale qui ne soit pas pour autant exclusivement une perspective bruxelloise et qui ne soit pas non plus une perspective monodisciplinaire. Donc, comme je le disais au début, à la lecture des contributions, on constate qu'une majorité de participants considère que l'Union est devenue légèrement plus autonome en 2020. Et si aucun auteur ne considère qu'elle n'est devenue beaucoup moins ni beaucoup plus autonome, il y a néanmoins d'importantes divergences effectivement d'appréciation qui témoignent d'abord du fait que 2020 a été une année très importante pour l'UE, durant laquelle des réalisations assez contradictoires ont lieu. On rentrera peut-être après dans le détail, mais je pense ici par exemple au Brexit, dont les négociations ont été rondement menées du côté des Européens, mais qui acte tout de même le départ d'un membre de l'Union, ou encore la percée historique du fonds de relance, que certains considèrent obscurci par la faiblesse du mécanisme de conditionnement de l'octroi des fonds au respect de l'état de droit. Donc chaque analyste a son point de départ, son point de spécialité, et la confrontation des raisonnements était de ce point de vue vraiment intéressante.
Et alors justement, vous êtes revenu, vous avez évoqué le Brexit, donc commençons peut-être par ça. On voit que dans vos contributeurs, certains effectivement se félicitent que finalement ce Brexit était géré par les 27 qui ont semblait plus unis que jamais sur ce dossier, même si certains, en matière d'autonomie stratégique, déplorent le fait que finalement, il faut quand même le rappeler, avec le Royaume-Uni, c'est quand même la deuxième armée de l'Union qui quitte l'équipe. Hein.
Oui, effectivement, et je pense qu'on le ressent très bien dans les appréciations. On a par exemple la contribution de Thierry Chopin qui revient sur cette capacité, sur cette unité des Européens dans les négociations du Brexit. Caroline de Gruyter aussi a une perspective intéressante parce qu'elle considère que la capacité de Michel Barnier à canaliser la force de projection des Européens a été un moment assez important. Et puis, on a quand même d'autres contributeurs, je crois que c'est Charles Wyplot qui, lui, déplore en définitive, bien sûr, la sortie des Britanniques et qui considère qu'en termes d'autonomie stratégique, c'est un élément qu'il apprécie comme étant plutôt négatif.
Et en matière d'autonomie stratégique, il y a un autre point sur lequel reviennent beaucoup de vos contributeurs, c'est le fait que l'Union, dans cette période extrêmement cruciale, extrêmement particulière, a lancé un emprunt commun qui est vu par certains comme un saut fédéral. Une marche comme vers l'unité. Hein.
Oui, bien sûr, je pense que c'est évidemment l'élément principal. Cet élément revient quasiment dans chacune des contributions, c'est le fonds de relance, c'est l'accord sur le budget et c'est bien sûr l'embryon l'endettement commun des Européens qui ouvre la voie à des avancées potentiellement majeures en termes d'intégration européenne. Chacun entend et apprécie cet élément nouveau comme étant une véritable percée pour l'autonomie stratégique européenne. Et donc, je pense qu'on constate bien que beaucoup des réponses tournent autour de cet élément-là. On a une exception assez notable, une modération assez notable, celle d'Alberto Alemano, qui, lui, considère que effectivement le Covid a bouleversé de nombreuses règles européennes et qui se dit très préoccupé par le fait que l'Union ferme continuellement les yeux sur les infractions de l'état de droit, notamment celles commises en Hongrie et en Pologne. Et il est très critique à cet égard du mécanisme de conditionnement de ce fonds de relance.
Alors, il y a aussi, évidemment, toute une dimension en matière d'affaires étrangères, et ça revient dans un nombre de contributions. On parle effectivement, alors on se félicite d'une autonomie stratégique qui est consolidée avec en interne, avec ce plan de relance, cet emprunt commun, mais l'Union européenne, force est de le constater, reste un nain diplomatique. On l'a encore vu pendant le conflit du Karabakh ces derniers mois, ou la situation au Bélarus, des crises aux portes de l'Union dans laquelle Bruxelles garde un rôle toujours mineur. Hein.
Oui, effectivement, c'est une préoccupation qui revient assez régulièrement. On la voit dans la vie de Bruno Massaès, qui lui, par exemple, établit une dichotomie intéressante entre les progrès géoéconomiques et les atermoiements au niveau de la politique étrangère. Et donc, son point de vue ici est assez intéressant. On a effectivement le point de vue de Pierre Vimont, celui de Nathalie Tocci aussi, qui déplore certaines défleurisations, notamment au niveau budgétaire des efforts de politique étrangère. Je pense que, globalement, on a aussi des aspects, des contributions qui sont assez positives, avec notamment celle de Daniel Fiot, qui dresse un bilan des des avancées européennes en matière de défense, mais aussi dans une certaine définition de multiples stratégies, notamment des stratégies de projection, qui devraient permettre de flécher les milliards d'euros du fonds de relance. Donc, je pense que là, on a vraiment des appréciations assez hétérogènes, mais effectivement, beaucoup considèrent que l'Union n'a pas été au rendez-vous de la politique étrangère pendant cette année.
Et alors, vous citez Daniel Fiot. Alors, lui, il se félicite aussi de l'investissement. Je crois que c'est la première fois que l'Union investit dans le domaine de la défense en mettant 230 millions dans des dispositifs de recherche et développement dans des outils de défense commun.
Oui, exactement. Lui, c'est sa spécialité, la politique de défense. Effectivement, il se félicite de ces investissements nouveaux, de cette priorisation nouvelle, même si elle a été moins importante que ce qui était initialement envisagé dans le budget avant la crise du Covid. Mais pour lui, ça contribue effectivement à l'autonomie stratégique européenne, à la réalisation concrète de cette autonomie, et notamment le fait que ces investissements s'insèrent dans des stratégies européennes multiples est assez essentiel, par exemple, à ses yeux.
Et il y a d'autres dimensions pour arriver à l'autonomie stratégique européenne que j'ai noté dans les contributions. Par exemple, celle de Yanis Koutsomitis qui affirme que la décision de décarboner l'économie avec ce Green Deal pourrait être aussi très utile pour l'autonomie stratégique en ouvrant la voie à un avenir autonome sur le plan énergétique. C'est des choses qu'on entend assez peu souvent.
Oui, effectivement, je pense que là aussi, il y a eu énormément d'actions qui se sont passées en 2020, puisque ça a été une année particulièrement bouleversante pour l'Union européenne. On voit cet élément, effectivement, de la politique climatique européenne qui devient un élément fondateur de l'action de la Commission. Effectivement, Yanis Koutsomitis s'en parle. Et ce sont des éléments qui participent de l'autonomie stratégique européenne. Simone Tagliapietra en parle également. Et je pense qu'ici, il y a une espèce de perspective sur un package, une capacité de voir un petit peu, de prendre du recul sur l'année 2020, puisque nous avons eu un accord sur le budget, nous avons eu un accord sur le Brexit, et nous avons eu également aussi une position d'accord sur un deal avec la Chine, pour les relations commerciales avec la Chine, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre en fin d'année. Et donc je pense qu'on voit à travers chacun de ces éléments à quel point l'autonomie stratégique ne se limite pas à la politique étrangère, à la politique extérieure, mais couvre absolument tous les sujets de l'action de l'Union européenne.
Alors l'année 2020 a été cruciale, l'année 2021 devrait être aussi décisive pour cette question de l'autonomie stratégique européenne. Benjamin Haddad affirme justement que la tentation sera grande d'abandonner les efforts pour se reposer sur un système américain devenu plus prévisible.
Alors, c'est très intéressant parce que, justement, cette question-là est assez importante en ce moment. On se rend compte que les questions qui ont été posées sur l'autonomie stratégique européenne et la relation avec les États-Unis, il y a eu en fait un phénomène, une tendance générale assez intéressante à vouloir clore le débat sur l'autonomie stratégique européenne. Soit pour rejeter cette notion chez les pays transatlantistes, qui considèrent que finalement la présidence Trump n'était qu'une parenthèse, soit au contraire pour accélérer le processus, comme le souhaitent ceux qui voient l'ère Trump comme un point de rupture. Et donc il y a ici un certain manichéisme, mais qui cache un débat, je pense, beaucoup plus structurant sur le rapport des Européens au monde et sur la nature des relations entre communauté européenne d'un côté et communauté atlantique de l'autre. Et c'est un véritable débat géopolitique qui est essentiel et qui doit impérativement se tenir au regard de l'évolution des rapports de force internationaux. Et je pense qu'on en a déjà vu, on le voit déjà, au regard des tensions transatlantiques qui ont été provoquées par cet accord UE-Chine, qui a été scellé, sur le principe le 30 décembre, où là encore, un nouveau débat s'est enclenché en fin d'année face aux vives critiques de la future administration Biden vis-à-vis de l'accord. Et les divergences d'appréciation sur la portée géopolitique de cet accord étaient absolument fascinantes, où on avait vraiment certains commentateurs qui considéraient que c'était un geste politique très fort de la part de l'Union européenne de poursuivre cet accord malgré le changement, l'arrivée prochaine de Joe Biden au pouvoir aux États-Unis, et ceux qui, au contraire, plutôt aux États-Unis, considéraient que l'Union aurait pu attendre de l'arrivée de la nouvelle administration américaine pour poursuivre sa réflexion stratégique vis-à-vis de la Chine. Donc je pense que là, c'est très intéressant parce qu'on voit que ce débat sur l'autonomie stratégique européenne ne fait que commencer, en tout cas.
Et pour terminer, je sais que c'est toujours compliqué de synthétiser des contributions nombreuses, mais comme dans votre introduction, vous avez rappelé que, c'est, que le concept d'autonomie stratégique européen était parfois un peu nébuleux au fil de tout ce qui s'est passé, de tout ce que vous nous avez rappelé. Est-ce que vous estimez que ce concept, il est un petit peu moins nébuleux désormais après cette année 2020 si spéciale?
Je pense que le concept est effectivement peut-être un peu moins nébuleux parce que tout simplement on en parle. Une des choses qui, une des prises de conscience qui a été importante, c'est cette réalité qu'il y a une véritable insuffisance à se concentrer uniquement sur une stricte logique de moyens pour penser la place de l'Europe dans le monde. Finalement, pour définir les moyens concrets de l'action extérieure de l'Union, il est impératif qu'une perspective se dégage sur les fins que l'on veut atteindre ensemble. Et je pense que ce papier y participe, c'est une double condition qu'il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas tomber dans un manichéisme sur ce point. Ce qui se joue aussi, et je pense que c'est très important pour que le débat puisse se poursuivre, c'est la constitution d'un espace politique européen qui existe non seulement au-delà de la sphère bruxelloise, mais qui prend forme à mesure que les controverses politiques débordent le cadre national. Et c'est pour ça que je vous parlais au début de cette interaction indirecte entre le président français et la ministre de la Défense allemande. Et je pense que c'est un phénomène positif qui contribue à montrer que l'autonomie stratégique européenne est complexe, revêt tout un tas de politiques qui ne sont pas uniquement la politique de défense ou l'action extérieure de l'Union européenne. Et notre objectif, c'est évidemment de contribuer à structurer ce débat par nos travaux.
Eh bien, je vous remercie chaleureusement, Monsieur Lumet, d'être revenu sur cet article que je recommande chaleureusement à nos auditeurs et que vous pourrez lire sur le site du Grand Continent, grandcontinent en un seul mot, .eu. Je vous remercie, Sébastien Lumet. Je rappelle que vous êtes le responsable du bureau bruxellois du Grand Continent. Et bonne lecture à tous. Merci.
Merci à vous.
C'était Grand Continent. Une émission pour enrichir les questions techniques du politique contemporain avec une exigence intellectuelle adaptée aux singularités de l'environnement européen. Grand Continent. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur euradio.fr.